Bonjour, bienvenue dans cette dernière section consacrée au développement parallèle où nous allons aborder très rapidement les abstractions et les modèles qui vont permettre de développer des applications parallèles efficaces. Alors on l'a vu, hein, depuis 2005, les ordinateurs modernes connaissent donc une explosion dans la croissance de leur nombre de cœurs sur un die. Alors pour tirer profit de toute cette puissance théorique, il faut développer en parallèle, mais on va plus utiliser la notion de thread, qui est l'élément de base d'exécution de Windows, mais la notion de tâche qui vient avec une nouvelle librairie qu'on appelle la Task Parallel Library, qui nous simplifie grandement le développement parallèle, puisqu'elle introduit des algorithmes qui sont efficaces et simples à utiliser, mais également des classes et des librairies comme le parallel link qui permettent de paralléliser la recherche d'éléments dans des collections et qui est, comme on l'a vu, assez efficace. Alors, comme je vous l'ai dit depuis le début de ce cours à MVA, si on souhaite développer une application parallèle efficace, il est donc important d'introduire, dès le début de la phase de conception de l'application, une réflexion sur le parallélisme, afin d'identifier en amont les parties qui pourront être concurrentielles et si cela est justifié. En d'autres termes, on n'attend pas la dernière ligne droite pour penser parallèle. On doit, si on veut être le plus efficace possible, donc augmenter le pourcentage de parties parallélisables d'une application, y penser dès le début, parce que comme ça, on pourra être beaucoup plus performant s'il y a un pourcentage plus élevé qui soit parallélisable, et surtout on va pouvoir aussi identifier bien en amont les problèmes de contention, c'est-à-dire de partage de mémoire qu'il y aurait dans l'application, et donc pouvoir travailler de façon efficace avec les verrous qui permettent donc de protéger un espace mémoire. Et parce que ces verrous peuvent être sujets soit à erreur, soit à problème de performance. Donc quand on décide de partir en fait en développement parallèle, ben il faut se mettre dans un état d'esprit pensée parallèle et donc véritablement structurer l'application afin que l'application monte toujours efficacement en charge, parce que une application parallèle peut effectivement tourner sur plusieurs cœurs, comme on l'a déjà vu dans ces différentes vidéos. Mais on peut très bien penser à terme que l'algorithme que vous voulez faire tourner va tourner non plus sur plusieurs cœurs, mais sur plusieurs machines. Et donc c'est pareil, le résultat est exactement le même, hein. Aujourd'hui, on est en train de parler de cloud, et donc l'application ou l'algorithme est susceptible de pouvoir être exécuté sur plusieurs machines qui elles-mêmes vont l'exécuter sur plusieurs processeurs. Donc penser parallèle, c'est aussi penser efficacement à la montée en charge, non seulement sur plusieurs processeurs, mais également sur plusieurs machines. Alors, on a besoin à un moment donné, lorsqu'on pense parallèle, de passer à des phases d'analyse et de conception pour rechercher la concurrence. Donc pour rechercher la concurrence, ben, il va falloir qu'on décompose l'algorithme ou notre application, et on peut la décomposer par tâche, ou dans certains cas, le problème est relativement simple à résoudre et peut se décomposer donc en des tâches qui soient relativement indépendantes. Et si tel n'était pas le cas, bah il faudrait donc penser à des décompositions de données, comme on le verra par la suite. Alors, de toute manière, que l'on commence par une décomposition par tâche ou par une décomposition de données, notre algorithme parallèle exécutera des tâches concurrentielles. Donc il est donc hyper important déjà les identifier à cette étape-là. Alors, Exemple de décomposition par tâche, c'est des tâches complètement indépendantes. Une qui ferait dans un traitement de texte le comptage des pages, alors que celui-ci est en train de charger les pages. Ou une impression en arrière-plan. Ou une sauvegarde automatique du document, alors que je suis en train de faire une correction orthographique du contenu de mon document. Donc, ce qui est véritablement important, et la clé de la décomposition par tâche, hein, c'est de s'assurer qu'elles soient suffisamment indépendantes les unes des autres, et de s'assurer qu'elles soient également réparties correctement sur un ensemble de cœurs, ou même, on le verra, sur un ensemble de machines ou de clusters. Alors, la première phase, c'est véritablement d'identifier le plus de tâches possible, même si à la fin, on doit fusionner plus tard. Il faut identifier le nombre de tâches importantes et les fusionner plus tard. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que trop de tâches tue les tâches. Effectivement, si on a trop de surcharge, trop de basculement de contexte parce qu'il y a trop de tâches qui s'exécutent simultanément, ça tuera les performances de l'algorithme ou de l'application. Alors, on peut trouver nos tâches dans différents endroits du code. Comme je vous l'ai déjà dit pour le traitement de texte, une tâche, ça peut correspondre à une fonctionnalité de l'application. Donc, on va avoir plutôt une décomposition fonctionnelle. On va en trouver naturellement dans les itérations, donc des boucles. Ça, c'est hyper important. Et les tâches vont jouer également un rôle lors de la décomposition de grosses structures de données, où elles vont, comme on le verra par la suite, travailler chacune indépendamment des unes des autres sur une portion des données. Alors une fois qu'on a adressé la décomposition, on va pouvoir faire notre analyse des dépendances. On a nos tâches, on a nos données, et bien on va savoir grouper les tâches entre elles par centre d'intérêt, par exemple. Une tâche va pouvoir dépendre d'une tâche B, et donc on sait que la tâche A, par exemple, doit attendre la tâche B, etc., etc. En groupant ces tâches, on va donc établir un ordre partiel entre elles, et donc on va savoir exactement quand il va falloir utiliser les verrous et quand les ordonner. Ces fameux verrous, si on permet de partager la mémoire. Donc, ordonner ces tâches, c'est important pour éviter les étreintes fatales, comme on l'a vu dans notre précédente vidéo. Et du coup, on va pouvoir partager de façon efficace nos données en mémoire, parce que on saura comment ordonner les verrous. Et comment ordonner nos tâches. Ça, c'est hyper important. Ensuite, une fois qu'on a bien décomposé et bien ordonné et groupé nos tâches, eh ben, on va avoir une phase d'évaluation. On va mesurer l'efficacité de notre algorithme. Et on va réitérer parce que on peut très bien faire tourner l'algorithme de façon efficace sur 4 cœurs. Mais pas sur 8 cœurs, alors que on a 8 cœurs physiques sur la machine. Alors, les forces en présence de cette phase de conception, c'est que déjà, petit 1, j'ai de la flexibilité. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, mon algorithme va pouvoir s'adapter rapidement à la phase d'implémentation, c'est quand je vais pouvoir coder. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus agile. Je sais que je vais être flexible parce que l'application doit pouvoir donc s'adapter automatiquement, par exemple, au nombre de processeurs de la machine qui sont en constante évolution. Le fait de pouvoir faire cette phase de conception, c'est ça que ça va me permettre, c'est de pouvoir monter en charge. Et il va même peut-être être judicieux de ne pas se cantonner ou d'utiliser des méthodes de programmation qui ne feraient appel qu'à une seule machine ou qu'à un seul PC. À l'heure du cloud aujourd'hui, comme je le disais en introduction, il est peut-être souhaitable de se dire, bah, tout compte fait, mon algorithme va pouvoir évoluer sur des clusters de calcul pour plus d'efficacité. Alors, efficacité, toujours garder à l'esprit qu'un programme parallèle doit pouvoir monter en charge lorsque le problème à résoudre devient de plus en plus grand. On travaille sur un volume de données de plus en plus important. On a donc besoin d'un nombre de tâches importantes qui soient actives simultanément. Donc chacune des tâches devant faire assez de travail pour compenser la surcharge de leur création et de leur gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pas plein de petites tâches qui font plein de petits boulots. Il faut peut-être une tâche qui regroupe plein de petits boulots parce que on sait que la création de cette tâche a une empreinte mémoire et une empreinte en performante. Et le nombre de tâches doit pouvoir s'adapter de façon efficace au nombre de cœurs du PC ou à l'utilisation des clusters dans un cloud par exemple. Donc c'est très très simple, la décomposition donc par tâche peut être effectivement assez complexe à trouver parce que il y a des points de contention qui peuvent être très complexes à mettre en exergue. Mais elle est assez simple dans ses principes, on l'a vu, et dans ses constructions pour faciliter, c'est ça qui est bien, le débogage et la maintenance de l'application. Parce que comme on sait exactement quelles tâches doivent être exécutées simultanément, on peut les isoler et les débugger de façon efficace. Donc la prochaine phase dans notre recherche du parallélisme, c'est ce qu'on appelle les structures algorithmiques. Et la clé, c'est de décider quel modèle est le plus approprié pour résoudre le problème. En règle générale, on a des structures algorithmiques qui sont organisées par flux de données et par tâches. C'est souvent un mixte. Donc organisé par tâche, on a une organisation par données, donc qui vient de la décomposition. Donc en règle générale, j'ai véritablement un mixte des deux. J'ai une troisième structure algorithmique aussi, qui est organisée par un flux de données qu'on verra peut-être un petit peu plus en détail plus tard pour vous montrer ce que c'est que ce flux de données. Donc si on organise par tâche, on peut avoir des algorithmes très linéaires, et donc du coup on exécute des tâches parallèles. On peut avoir des algorithmes récursifs, et donc là, on va plutôt diviser pour conquérir. Si on est organisé par données, nos algorithmes linéaires, on va faire donc une décomposition des structures de données avec des tâches qui vont travailler sur des éléments indépendants. Et puis, si on a des algorithmes récursifs, bon, ben, on fait de la récursivité de données. Derrière, lorsque c'est organisé par flux de données, soit on utilise un modèle en pipeline, comme sur les lignes de montage de voitures, par exemple, ou alors, si c'est en récursif, c'est plutôt de la coordination d'événements. Alors, les forces en présence, c'est que il est crucial qu'un problème parallèle tourne rapidement et utilise efficacement les ressources du PC. Ça, c'est hyper important et donc il faut bien choisir sa structure algorithmique. Encore une fois, il faut que ça soit simple et facile à comprendre, facile à débugger, à vérifier, à modifier. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la phase d'implémentation avec la TPL qui va nous apporter pas mal de modèles et de simplicité pour le développement. Alors on a une notion de portabilité aussi. Il ne faut pas oublier encore une fois que l'application doit s'adapter aux ressources et que la vie d'un PC, d'un hardware par exemple, on sait, elle est moins longue que la vie d'utilisation d'une appli ou d'un algorithme. Et encore une fois, la montée en charge, bien garder à l'esprit que la montée en charge est un élément crucial, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'adapter au nombre de processeurs que j'ai sur la machine, mais également au nombre de machines sur lesquelles pourrait s'exécuter notre algorithme. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, de voir notre structure de code et de données, voyons un petit peu ce que c'est que cette organisation par flux de données. Ben, cette organisation, il faut la voir comme un pipeline ou comme une ligne de montage de voiture où j'ai des agents qui vont se transmettre la voiture ici, sur lequel ils vont travailler, mais chacun va travailler sur une partie différente. Il y en a un qui va soudre un pare-choc, l'autre qui va travailler sur le pare-brise, l'autre qui va travailler sur les rétroviseurs, et ainsi de suite. Mais chacun fera une partie et travaillera toujours sur la même partie, mais n'attendra jamais que l'un ait fini pour pouvoir commencer sur la prochaine voiture. On le voit, c'est une ligne de voiture ici. Et c'est exactement la même chose lorsque je vais vouloir travailler sur la voiture ou sur une structure de données, mais séparée, par exemple, ici en deux. On voit bien que j'ai deux agents qui travaillent, l'un sur un côté, l'autre sur l'autre, puis après on fait un regroupement. Alors, rappelez-vous, je vous avais parlé de degré d'isolation des données. Ben, quand le degré d'isolation est important, on a besoin de ne pas partager en mémoire les données, ben, on va utiliser une notion d'agent. D'accord? Donc cette notion d'agent ici, elle va être symbolisée par des blocs asynchrones qu'on n'a pas vus aujourd'hui dans notre cours MVA, mais que vous pouvez aborder. Ça s'appelle la TPL, donc la Task Parallel Dataflow. Il y a pléthore de documentation dessus sur le net. Donc je vous encourage à aller voir comment ça fonctionne. Parce que ça permet de travailler de la manière suivante. Je vais avoir un agent asynchrone A, donc on va imaginer celui qui est en train de souder le pare-brise. Dès qu'il a fini, il va envoyer un message à l'agent B pour lui dire c'est bon, tu peux y aller. Donc la ligne de production va continuer. L'agent B éventuellement peut lui répondre. Mais surtout, l'agent B, lui, est en attente, est toujours en attente que l'agent A lui envoie en fait du travail. Puis de la même manière, l'agent B, une fois qu'il aura fini, va envoyer un message. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'envoient des messages, mais en aucun cas, on ne partage les données en mémoire. Si on a besoin d'un degré d'isolation moyenne, eh ben on va pouvoir utiliser donc nos tâches. Alors, dans la notion d'agent, on peut bien évidemment utiliser des algorithmes parallèles qui sont décomposés en plusieurs tâches pour être le plus efficace possible, hein, bien évidemment. Et puis, si on a un degré d'isolation exigé très très faible, parce que on sait qu'on va pouvoir travailler sur des volumes de données différents dans notre algorithme. Donc là, on va partager un espace mémoire, comment dire, bien séparé. Ici. Donc on a vu. Donc dans ces structures de code et de données, ben on va avoir ce qu'on a déjà vu, hein, le pool de tâches, les boucles parallèles, la notion de fork joint, c'est cette notion où on utilise des primitives de coordination de tâches type le sémaphore, type les events, etc., etc. On a même vu que les tâches, hein, la Task Parallel Library, avait une notion d'attente sur un résultat, c'est-à-dire que je peux tester si la propriété résulte a fini ou c'est même elle qui attend automatiquement et chaque tâche peut avoir peut attendre les autres avec la méthode wait où on a même vu qu'il y avait des notions de continuation. Enfin, on a les structures de données, bah, pas besoin de réinventer la roue en fait. La TPL fournit tout le nécessaire, toutes les structures de données nécessaires pour gérer l'asynchronisme mais aussi le multithread de façon efficace. Alors enfin, on a les mécanismes d'implémentation, mais ça, ces mécanismes d'implémentation, ben, on les a vus, hein, c'est la Task Parallel Library, ce sont donc les tâches qu'on utilise et non plus les threads. C'est aussi des mécanismes d'implémentation plus impératifs tels que Pellink. Alors pour aller plus loin, je vous recommande naturellement la documentation MSDN si vous voulez aller voir un petit peu comment fonctionne le modèle de thread. Vous avez également sur la documentation MSDN une section consacrée au Parallel Programming with Microsoft.NET. Quelques blogs, donc le blog en fait du groupe parallèle chez Microsoft, le blog de Visual Studio, mais consacré en fait à l'outil qui permet d'analyser les erreurs parallèles, un blog de votre serviteur ici présent et d'un contributeur individuel qui est Bruno Boucard, qui est notre spécialiste en développement parallèle. Et puis quelques exemples ici que vous pouvez retrouver et télécharger, qui ont été faits pour le framework .NET 4.0, mais qui fonctionnent très bien pour le framework 4.5. Ensuite, une petite littérature sur laquelle je me suis inspiré. Le Concurrent Programming en Windows de Joe Duffy, donc extrêmement intéressant si on veut comprendre le développement parallèle sur Windows et tous les mécanismes de Windows. Une documentation en fait un petit peu plus hardcore sur le multicore programming d'Intel. Donc ça c'est assez intéressant parce que on va beaucoup plus bas et on travaille sur des algorithmes. Alors c'est un petit peu agnostique par rapport à la techno, mais c'est assez intéressant à voir et à lire. Deux livres sur .NET, donc en C-Sharp ici. Désolé pour les développeurs VB, mais ils ont été faits qu'en C-Sharp. Un premier livre ici, assez haut niveau, qui vous décrit ce que je viens de vous décrire dans ce cours. Et un deuxième livre qui va un petit peu plus loin et qui, pareil, de la même manière, va vous détailler quelques algorithmes assez intéressants. Ensuite, on a fini par une session parallèle pattern, donc vous allez pouvoir les retrouver beaucoup plus en détail dans ce livre ici. Et de la même manière, fait par notre groupe Pattern and Practices, vous avez la possibilité d'acquérir ou même de télécharger ce livret blanc sur le parallèle programming avec Microsoft.NET. Bon ben voilà, c'est fini. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir supporté en fait l'imperfection de mon cours MVA. Je sais qu'on peut faire toujours mieux. C'est pas toujours facile à expliquer. Je sais que c'est même des fois difficile à comprendre, mais vous avez une bonne lecture que vous pouvez utiliser cet été ou lire cet été pour parfaire votre connaissance ou vos connaissances sur le développement parallèle. Alors, mes aliens aimeraient vous dire un dernier petit mot. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin et aborder la notion de flux de données avec la TPL Dataflow, n'hésitez pas à écrire à ericv@microsoft.com pour qu'on puisse construire un cours sur cette librairie. Voilà, merci, à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui partiraient en vacances cet été. Alors, l'idée de cette démo, c'est de dessiner ici, dans ce rectangle blanc, une fractale de Mandelbrot. On va découper la fractale de Mandelbrot en nombre de bandes. Donc ici, on va découper typiquement ce rectangle en 50 bandes. Et puis, on veut une profondeur de l'algorithme de 10 itérations, c'est-à-dire 10 itérations qui correspondraient à l'ensemble de Mandelbrot. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va exécuter en monothread. Donc j'exécute ma fractale et on voit ici, elle n'est pas hyper détaillée, mais je vois qu'elle met 656 millisecondes en monothread. La première chose qu'il faut faire, donc, c'est quand même de se dire, est-ce que je peux, en monothread, améliorer cet algorithme? Donc si je l'exécute, je vois que, eh oui, Pour le même temps, pour le même algorithme, mais amélioré, pour la même résolution, je vois que je descends à 114 millisecondes, ce qui est assez énorme. Donc première chose, c'est améliorer déjà les performances de l'algorithme. Alors on peut le réexécuter plusieurs fois pour voir que peu ou prou, effectivement, je tombe à 100 millisecondes. Maintenant, on va utiliser en fait la TPL et la TPL doit garantir que sur un seul processeur, eh ben, je vais mettre le même temps. Donc, si j'exécute mon algorithme en utilisant la TPL, on voit que je mets à peu près peu ou prou exactement le même temps. On voit bien que j'ai un découpage là. Vous voyez, c'est assez rapide, mais vous voyez bien que le découpage commence ici, après ici, après ici. Ben ça, c'est que la tâche qui est exécutée, puisque j'en ai qu'une seule sur 50 bandes, la tâche est exécutée, elle va commencer là, après elle va aller là. Rappelez-vous, hein, le système d'exploitation peut bien évidemment redonner un temps ou. Quand il y a un basculement de contexte, ben la tâche redémarre là où, pas forcément là où elle s'est arrêtée, comme en monothread. Alors l'intérêt après, c'est de se dire, bah, tout compte fait, je vais pouvoir peut-être augmenter le nombre de processeurs, et puis me dire, bah, je vais exécuter, et là, oui, bon, est-ce que j'ai une moyenne? Ah, 83, c'est pas mal, donc 103. Donc en fait, peu ou prou, je m'aperçois que. Sur cette fractale-là, si j'augmente pareil, je double le nombre de processeurs, je m'aperçois que bah, tout compte fait, ici c'est vrai, si je suis descendu là à 58, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que si je double le nombre de processeurs, je descends? Là, vous voyez, par exemple, typiquement, je suis passé à 6 processeurs et je vois que ça réaugmente. Donc là, mon algorithme pour mon volume de données qui est celui-ci, s'arrête manifestement, hein, ses performances s'arrêtent à 4 processeurs. Si je monte à 8 processeurs, je vois que peu ou prou, je suis comme si j'étais à 6 processeurs. Je reviens pour vérifier qu'à 4 processeurs, c'est bien le meilleur algorithme. Je le vois, hein, oui, je sais que sur ce volume de données-là, 4 processeurs, c'est le meilleur temps. Donc je me dis, ok. Je vais augmenter le nombre de bandes à l'écran, donc augmenter carrément le nombre de tâches à l'écran. Donc on va mettre un nombre de tâches à 500. Je reste sur 4 processeurs. Et si j'exécute, là je m'aperçois que j'ai plus de tâches. Ici j'ai plus de tâches. Donc en fait, au contraire, j'ai alourdi l'exécution de mon algorithme. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut faire en fait, hein. Ici, je sais que pour cet algorithme avec une profondeur à 10, je m'aperçois que c'est pas la meilleure solution. Alors je peux augmenter le nombre de processeurs, et là je m'aperçois que bah, je suis exactement au même temps. Donc j'exécute, voilà, peu ou prou, je suis même un peu plus haut lorsque j'utilise 8 processeurs. Donc du coup, je sais que il faut pas que j'augmente le nombre de tâches, bien au contraire, donc on va retomber sur un nombre de tâches à 50, et que je reste à 4 processeurs. Ça, c'est la loi d'Heimdall qui dit que le volume de données est statique. Maintenant, si je veux aller un tout petit peu plus loin et avoir une profondeur et une résolution bien meilleures, je vais passer à 100 itérations. Et lorsque je vais exécuter mon code, je m'aperçois là que la résolution en fait de ma fractale de Mandelbrot est quand même un petit peu meilleure et que j'ai mis peu ou prou 95 millisecondes. Alors qu'ici je mettais 70 millisecondes, mais j'ai mis 95 millisecondes, donc c'est pratiquement le même temps. Si je le faisais en monothread, là on voit que tout de suite, j'ai un gain de performance qui est énorme, 95, 100 millisecondes. Et si je prends mon algorithme monothread qui n'est pas optimisé, je vois que là, j'ai un gain vraiment, 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 vraiment énorme. Donc, si je reviens en fait à 4 processeurs, je réexécute mon algo, je sais que je suis à 90 pour peu ou prou, en fait, pour une résolution qui est quand même meilleur. Est-ce que en augmentant le nombre de processeurs, je vais pouvoir descendre? Et oui, là, je m'aperçois que là maintenant, mon algorithme est plus judicieux à 6 processeurs. Je m'aperçois que typiquement, j'ai 76 millisecondes. Est-ce que si j'augmente à 8 processeurs, je suis plus rapide? Non. Je vois qu'ici, mon volume de données à volume constant, j'ai une exécution qui est plus grande. Donc du coup, je vais peut-être augmenter mon traitement. Et si j'exécute ici, je vais m'apercevoir que je mets 289 millisecondes, que la résolution est quand même encore meilleure. Et si je descends ici, je suis à 325. Je suis à 390 et je suis à 671. Alors que avec mon algorithme de départ, j'étais déjà à une seconde et demie. Mais on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire augmenter, à un moment donné, si l'algorithme le demande, on peut augmenter le nombre de bandes, c'est-à-dire augmenter le partage des volumes de données ici qu'on devrait, qu'on devrait dans de la fractale de Mandelbrot qu'on devrait utiliser. Si ensuite j'augmente mon nombre d'itérations, si je pars en monothread, donc là je vais avoir un traitement relativement une résolution relativement bonne avec une profondeur de champ assez importante, mais je vois que mon algorithme met en monothread 9 secondes. Si je prends l'ATPL et que j'utilise deux processeurs, je vois bien ici que j'ai mon fameux voleur de tâches qui fonctionne, et là je diminue pas tout à fait par deux, mais j'ai une accélération de 1,5. Donc du coup, je vais pouvoir augmenter le nombre de processeurs. Je vois qu'ici que je divise là carrément par 3. Je vais carrément augmenter le nombre de processeurs. Là, on voit bien le découpage par tâche. Donc je suis à 2 secondes. Et si je mets à 8 procs, je devrais descendre à 1 seconde. Donc on s'aperçoit qu'ici, 1 seconde, c'est 1 seconde 8 par rapport à 2 secondes, c'est pas forcément énorme. Donc encore une fois, ce qu'on va faire, c'est peut-être augmenter le volume de données, exécuter en fait mon algorithme. On voit que j'ai mon phénomène de voleur de tâches. Dès que j'ai plus une tâche qui n'a plus rien à faire ou un processeur qui n'a plus rien à faire, ça va être volé. Là, je tombe à 8 secondes, alors que sur mon algorithme de base, pour la même résolution, je vais tomber à, en monothread, à faut attendre, c'est un petit peu plus long. On dirait un téléchargement d'images dans les années 90 sur Internet. Voilà qui est fait. Il a mis quand même un certain temps. Il a mis 41 secondes. Alors qu'avec la TPL, et l'algorithme optimisé, il va mettre. On voit bien là ici le voleur de tâches, 8 secondes. Donc on le voit en fonction du volume de données que vous voulez traiter et du partage des données de façon isolée, l'algorithme est plus ou moins performant en fonction du nombre de processeurs. Donc encore une fois, il est important de vérifier vos algorithmes et surtout de mesurer ce qui se passe à un instant T, donc mesurer, 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 mesurer.